Théo de mon amour, on vous retrouve Denis. Vous n'êtes pas venu en vélo dans le studio aujourd'hui, mais avec un cheval.
Plus qu'un cheval, Frédéric, une écurie complète. Oui, le cheval en fait est à l'honneur jusqu'à 14h. Merci Frédéric Barrère.
Hey, les chevaux qui arrivent. Voilà. On les voit à travers la haie, là. Ils viennent tranquillement, ils sont au soleil, ils profitent du soleil, là. Et puis, alors, le cheval, c'est le meilleur laisser-passer, bien sûr, pour pouvoir engager la conversation avec les gens. Ils commencent par discuter avec le cheval avant de discuter avec le bonhomme.
Et oui. CO2, mon amour.
Ouais, ils sont bien au soleil, ils boivent le soleil. On voit à l'œil de la jument, elle boit le soleil, littéralement. Ils savent apprécier ça. Alors, ils sont sales, c'est effroyable, ça, dans la boue. Hein.
Avec Denis Chessou.
Alors, on va leur donner des bouts de pain. Il y a toujours du pain qui les attend, là. Hein. Voilà, on va prendre un sac comme celui-là. Ils ont compris, évidemment.
Allez. Sur France Inter.
Tiens, ma belle. Oh, c'est bon, ça. Viens, toi. Allez, approche.
C'est l'écrivain Didier Cornaille dans son Morvan qui nous accueillait avec ses chevaux dans cette émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Bonjour à tous, c'est Au de mon amour avec aujourd'hui Élise Christophe à la technique et assistée de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors qui débute par une petite humeur, car certes dans le projet de loi climat résilience, on peut toujours parler des terrains chauffés et écarter 90% des amendements en faveur du vélo. On n'arrive toujours pas en fait à réussir ce fameux découplage, celui de la croissance du PIB fondée sur la consommation d'énergie et de matière et qui explose les limites planétaires. Donc les faits sont têtus, hein, c'est la physique qui nous le dit. Tous dans le même bateau, bien ou mal barré notre vaisseau terrestre, où va-t-il? Soit la passerelle est occupée par des pachas qui veulent gagner cette infernale course au ruban bleu en forçant la machine, en posant leur fessier sur la soupape afin de la tenir muselée, soit terrifiés par l'approche incontournable de cet iceberg géant, large comme un continent, ils ont déjà quitté le bord pour se poser sur Mars, certes intéressante pour la science, hein, mais planète morte quand même. Et vogue tant mal que bien et en musique la galère des lois contradictoires. Alors ce n'est pas faute de rappeler encore et toujours au capitaine Acap de la croissance à tout prix, de régater de conserve avec leurs beaux discours, et de relire, au carré des officiers, cette fable qu'il y a 3 siècles, le sieur de La Fontaine avait jugé utile de consacrer à l'ambition démesurée de la compétition. Vous savez, le bœuf et la grenouille qui s'enfla, ah là là. Mais pour se faire du bien et résister comme on peut, bien posons aussi les yeux sur ce qui n'est pas tatoué par un code-barre. Primavera. Un mot magique, un sésame de printemps, à prononcer en faisant lèvres douces, comme pour un baiser. Le jour pointe à peine, ouvrir les 2 volets d'un mouvement large des 2 bras, un geste ancestral qui disparaîtra peut-être avec l'invasion des volets roulants en plastique. Les 2 bras écartés pour découvrir cette journée neuve, c'est aujourd'hui que la nuit nous a préparés. Boire le silence, sur les pentes boisées encore sans couleur, les prunus de Mars s'éclosent en couronne de mariée. La pluie au loin roule en noir et blanc, giboulée. Le vélo, le pain, la route est encore vide de travailleurs sans café. Lire dans le journal de la nature les faits divers de l'hiver qui va tenir la rampe encore quelques journées. Garder la tête vierge, les rêves encore au chaud. Pain, beurre et pourquoi pas croissant déposé dans nos rêves par la lune sur le paillasson du vent. Dans l'épaisseur des bois, un peu plus haut, là, écoutez. La grive au ventre tacheté, la musicienne imitatrice va chanter. Et tout cela est gratuit, c'est le gratuit de la vie, donc c'est essentiel. Et dans ce pré, et ben dans ce pré qui nous attend tout au long de cette émission, non, madame, monsieur, vous n'oubliez pas votre cheval, montrons en scène. Et en selle, Pascal Pic, Philippe Poiret, Francis Dopf et Jean Rochefort. Le cheval est donc roi, vous l'avez compris, dans CO2 mon amour, et nous serons les cavaliers des ondes.
Pushing up to the end of the road.
Choisi par Thierry Dupin dans la playlist, c'était Benny Sings sur France Inter. Alors, comme nous avons un certain nombre de publicités, vous le savez, pour les SUV et autres voitures, qui permettent d'assurer une partie de l'avoine de Radio France, ouvrons le capot et laissons galoper les chevaux. Les vrais, avec quatre sabots, une encolure, une crinière et un hennissement à la place du klaxon. Donc, le cheval, ce ne sera pas une thèse, mais une sorte de camailleux équin, à travers les propos de quatre intervenants. Philippe Noiret, Francis Dobbs et son cheval débardeur dans les Vosges, Jean Rochefort, et nous allons débuter par Pascal Pic, que l'on connaît comme paléo-anthropologue, mais ce que l'on sait moins, c'est son amour des chevaux. Je l'ai retrouvé chez lui, dans l'Oise, en Picardie.
On va lâcher le caniche, hein. Voilà.
Ah, c'est ça. Tu parles d'un caniche, oui.
C'est un Doberman.
Bonjour.
Non, Jupiter.
Doucement, doucement.
Doucement,
oui,
doucement.
Jupiter, quand même. Oui.
Doucement, doucement. Non, je sais que t'es content, mais t'es encombrant.
Parce que si tu veux que ton maître passe à la radio, tu me bouffes pas tout de suite.
Exactement.
Non, mais ça va.
Et voilà, donc ils sont là.
D'accord.
Là, nous avons,
ça y est.
Nous avons Eben, qui est la jument de mon épouse, Christine, qui est une Anglo-Frison. Ils sont un peu sales, mais ils adorent se rouler dans la boue en ce moment. Ouais. Hier, ils se roulaient dans la neige. C'était absolument superbe.
Cela dit, c'est pas pour rien, parce que bon, là, il n'y a pas forcément énormément d'insectes, mais je veux dire que c'est aussi pour éviter les insectes, hein, qui se roulent aussi sur le dos parfois.
Oui, c'est ça. Alors, en été, oui, absolument. Et puis là, en hiver, bon, ils se font une petite croûte, ils aiment bien se frotter. Et puis là-bas, donc voilà Donatello, donc lui qui est mon cheval, si je puis dire, qui est un anglo-arabe, qui est très grand, qui fait 1m72 au garrot, qui est très intelligent. Il est très futé, mais pas simple.
On est parti, on n'a pas eu le temps de se dire bonjour. Bonjour Pascal Pic.
Bonjour, bonjour Denis.
Ah, un coq. Il a un nom ce coq?
César, très modestement.
Oui.
Le chien c'est Jupiter. Oui, mais il avait une copine malheureusement qui nous a quittés tôt, qui s'intitulait Hera. Ah oui, nous sommes des gens simples. Donc, ah ben voilà.
Ouais.
Et donc là c'est le poulailler. Donc ici en fait on ne gâche pas une miette de pain quoi.
Alors cher Pascal Pic, en fait évidemment on vous connaît comme étant un amoureux et un spécialiste, comme on dit, éminent des hominidés, des humains, oui. Et puis des chimpanzés, grands ou petits. Mais alors ce que l'on ne sait pas, c'est votre passion des chevaux.
Oui.
Voilà, et ça ne date pas d'hier,
non.
Et depuis très longtemps.
Oui, alors ça c'était un rêve d'enfance, comme tous les gamins, à monter à cheval. Mais ceci dit, si je suis en Picardie, c'est un peu pour retrouver des impressions d'enfance. Quand j'étais au collège, j'ai toujours eu un espèce de désir. En quatrième, en cours d'anglais, je découvre la personnalité du gentleman farmer.
Ouais.
Et là, ça a été quelque chose qui a toujours été là. Alors évidemment, il y a eu des tas de choses, hein, un petit appartement, étudiant, comme tous les étudiants, un séjour aux États-Unis. Mais il y a toujours eu avec mon épouse, on se connaît depuis très longtemps, il y a toujours avec mon épouse ce désir d'avoir des chevaux parce qu'elle était cavalière. Moi, je sors d'un milieu modeste, donc pas de frustration. Mais on pensait pas monter à cheval, même si c'était quelque chose qui semblait, bien sûr, très enviable, etc. Donc, je suis monté à cheval très tard, et puis j'ai pris le mordant. J'ai passé tous les diplômes. Le baccalauréat du cavalier, ça s'appelle le galop 7. Hein. Mais j'ai fait dans toutes les disciplines, parce que dans le coin ici, tous les clubs, hein, toutes les disciplines, hein, on est à côté de Chantilly quand même. Hein, donc, la belle cité du cheval. Et l'idée était qu'un jour, nous ayons les chevaux chez nous. Lorsque j'ai commencé à monter à cheval, c'était encore l'animal machine. Quoi. Alors, il avance pas, on lui met des éperons dans le cul. Il est trop fougueux, on lui met un double enrênement. Et là, je me souviens, parce qu'à l'époque, j'avais pas les moyens, donc j'avais pris un cheval en demi-pension, assez grand. Et pareil, double enrênement, éperon, parce que c'était un sacré gabarit quand même. Hein, vous voyez, le cheval est grand quand même. Et ils m'ont dit, non, tu vas te faire massacrer, tu vas pas contrôler le cheval. Je lui disais non, moi je vais prendre mon temps. Quand j'arrive, je passe au moins une heure avec le cheval, je marche avec lui, je lui parle, j'attends qu'il m'invite dans son box. Donc on se murmure aux oreilles, comme on dit. Et leur apprendre des...
On passe la barrière.
Des indications cohérentes avec le langage, qu'ils comprennent assez bien, des mots simples bien sûr. Je faisais du hunter, une discipline magnifique, et du dressage à l'obstacle. Et là donc, c'était des chevaux, mais j'avais aucune difficulté. Parce que ça prenait du temps. Mais on n'était pas dans un rapport de nomination. J'étais le cavalier, je suis le maître. Mais un rapport, donc, je veux dire, de consentement, en tout cas d'agrément. Et c'est comme ça qu'on a continué. Et ça donnait, donc, effectivement, d'excellents rapports avec les chevaux. Et ça continue aujourd'hui. Et là, maintenant, donc, nous avons ce grand paddock qui est là.
Alors là, on se rapproche.
Avec Donatello qui regarde l'herbe qui pousse, mais qui ne peut pas manger. Et ça, c'est assez ça. Désespérant.
Et oui, oui, parce qu'il y a de l'herbe juste à côté. Donc, c'est ça.
Donc là, c'est en train de pousser.
Alors là, évidemment, qui nous a repérés déjà depuis un certain temps, on voit bien les oreilles sans arrêt en mouvement parce qu'ils écoutent tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rappeler une chose, c'est que ces animaux-là, et même peut-être l'ensemble du monde animal, c'est-à-dire ce qui les caractérise, c'est d'abord c'est l'inquiétude. Parce qu'il faut quand même essayer d'éviter les autres prédateurs. Quoi. Donc, et ça, ça remonte à très très longtemps pour les chevaux aussi.
Ce qui est intéressant, vous êtes en train de vous promener, vous passez le long d'un bois, si quelque chose bouge dans le bois, bah, le cheval va dresser les oreilles et va même peut-être faire un bond et partir en courant. Le chien va se dire, tiens, il y a quelque chose à bouffer. Voilà, donc,
c'est la différence, elle est là.
C'est le même stimuli, mais c'est pas tout à fait la même réaction. Et bien sûr, tout ça, c'est lié à une très longue évolution.
Alors, longue évolution quand même pour ce cheval. 60 millions d'années au compteur, à peu près, non ?
Eh ben, l'histoire du cheval, ça part donc d'un petit cheval, enfin pré-cheval qu'on appelle Eohippus, ce qui veut dire le cheval de l'aurore, donc du commencement.
Il était, c'est un renard, quoi.
C'est la taille d'un renard ou d'un chien de taille moyenne.
Et il n'y avait pas de sabots, d'ailleurs.
Non, il n'y avait pas de sabots, parce qu'au départ, ils avaient trois doigts. Et donc, en fait, les chevaux, comme on sait, n'ont qu'un doigt. Ouais. Et on voit justement cette évolution extraordinaire que les doigts donc, qui restaient... Celui du milieu, qui est notre majeur, qui est le 3, et de part et d'autre, il y a le 4 et le 2. Eh bien, on voit le 4 et le 2 qui vont régresser, qu'on appelle les stylets, et il va rester que le numéro 3 qui devient l'os canon. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul sabot. Je peux vous dire, au prix de la ferrure, tant mieux. Mais, ceci dit, et là, c'est cette évolution qu'on voit très bien, d'où l'idée d'une évolution dirigée, comme s'il y avait une finalité, parce que c'est quasiment réglé comme du papier à musique, si je puis dire. On voit vraiment la taille des chevaux, enfin, chevaux qui grandissent, les membres qui s'allongent, parce que ce sont des animaux qui courent. Et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est que les chevaux ont failli disparaître. Parce qu'ils vont avoir un énorme concurrent, qui sont l'arrivée des ruminants. Et donc là, évidemment, là...
Faut se partager la bouffe. Hein, quand
même. Faut se partager la bouffe, mais ils ne partagent pas. Et là, c'est plutôt les animaux à deux doigts et à quatre doigts qui vont dominer. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui concerne les bovidés, les chameaux, les antilopes, etc., qui vont en fait prendre l'avantage sur les chevaux. Et c'est une des rares espèces, ça c'est rare, hein, qui a eu la chance de rencontrer l'homme.
Donc l'homme le domestique, on va dire il y a 3500-4000 ans,
c'est ça.
Et il le sauve, le cheval.
Oui, voilà, parce qu'il va passer de gibier à un véhicule de transport, en fait, qui va complètement bouleverser l'histoire de l'humanité. En fait, l'histoire de l'humanité, ça commence quand ? L'âge du fer, grosso modo, c'est au moment où on domestique le cheval, et le monde va complètement changer. Et on va vivre 6000 ans sous le signe du cheval. Ça fait pas très longtemps, quand même, que mon grand-père et mon père et mes deux oncles qui travaillaient donc dans les champs, ils avaient des chevaux avant que les tracteurs n'arrivent. Donc moi j'ai vu ça jusque dans les années 50. Quoi.
Alors on parle de la plus belle conquête de l'homme, c'est une chose, enfin aussi il a été extrêmement malmené, on le sait, c'est-à-dire que ça va aussi bien du destrier merveilleux au canasson, quoi, le cheval.
Oui, et puis les conditions dans lesquelles les chevaux ont été, ne serait-ce que dans les mines, ces pauvres chevaux qui ressortaient complètement aveugles. Donc en effet, il y a réellement une dette de l'humanité envers les chevaux. Ils n'ont pas été, pour la majorité, bien traités.
Allez, on repasse la barrière, parce qu'en fait, vos chevaux sont un tout petit peu partis. Alors, ils ressentent quand même les... J'ai presque dire notre état psychique. Hein. Ils sentent bien les...
Franchement.
Les émotions.
J'avais une jument à une époque qui s'intitulait Fury, la bien nommée. Ouais. Que l'obstacle, sautez pas une seule barre, mais en extérieur, vous sautez une haie n'importe comment. Elle n'aimait pas la carrière, mais par contre, en extérieur, elle était absolument fabuleuse. Eh bien, un jour, j'étais un peu fatigué, un peu excédé. Allez, je vais me détendre à cheval, comme ça. Elle me voit arriver, elle me dit, moi, toi, aujourd'hui, tu vas vraiment baver. C'est-à-dire que si vous arrivez près d'un cheval et vous n'êtes pas détendu, bien, il perçoit votre état psychologique. Et là, de fait, ça se passe pas très bien. Donc voilà, c'est Eben. La belle ébène, qui a un petit côté bottero. Elle a un corps elle a un corps solide, donc de cheval de trait, et une tête fine d'anglo. Donc c'est une combinaison assez rare. Elle est gentille comme tout.
Oh bah là, elle est à 15 cm. Je te mets le micro là sous le naseau, tu t'en fiches. Alors là, c'est normal parce qu'il est en train de lui monter dessus pour.
Oui, bah tiens, voilà, c'est nouveau ça.
Ça s'appelle une saillie, ça ou...
Non, c'est pas une saillie.
Non, c'est un câlin.
C'est un énorme câlin.
Ouais, c'est ça.
Bah écoutez, je n'ai jamais vu faire ça. Hein. Je ne sais pas si c'est l'effet France Inter.
Si, mais, c'est ça. C'est l'effet CO2 mon amour, je pense.
Bon, on va leur dire dans le coin que. Oui, CO2 mon amour, c'est bon pour la reproduction.
C'est bon, ça, c'est... Je peux venir. Je vais trouver un nouveau job d'inséminateur numérique.
Voilà, c'est ça.
Garde-toi. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter avec ces chevaux qui sont toujours là? On s'est un tout petit peu écarté, ouais. Tout va bien.
Bah en tout cas, je ne sais pas si c'est l'effet du soleil, parce qu'il fait beau aujourd'hui, ouais. Mais j'y trouve très entreprenant tous les deux. Bah écoutez, peut-être qu'il y en aura un poulain l'année prochaine. Hein. En tout cas, c'est beau la vie. Hein.
À bientôt, parce que je suis.
À bientôt, Denis, et au galop donc.
Pascal Pic, sous un autre jour, donc paléo-anthropologue, qui a écrit assez récemment « S'adapter ou périr » aux éditions de l'Aube, et puis aussi « Le retour de Madame Néandertal » chez Odile Jacob. Merci à lui. Ah, là, on va changer, et c'est un cadeau. Parce qu'en fait, j'ai fouillé dans mes archives personnelles, et j'ai retrouvé un son de Philippe Noiret. C'était en fait en fin d'interview, et sur un autre sujet, et là, je l'avais lancé, et j'avais jamais diffusé cela, sur l'Aude, sur sa maison de la Malpère, non loin de Fanjeaux et de Limoux.
Nous vivions en banlieue, ma femme et moi, et il y a donc 25 ans, on avait une vague envie comme ça de maison de campagne, alors, véritablement. Et là, ça a été effectivement le coup de foudre, parce que j'ai eu devant mes yeux la concrétisation de mes rêves, absolument. C'est-à-dire que quand je pensais campagne, je voyais ce paysage, où on voit loin, puisque de ma maison qui est sur un de ces petits sommets, je vois les Pyrénées et donc tous les contreforts. Là, j'ai eu le coup de foudre. En plus, c'est un pays où il y a très peu d'élevage, donc très peu de clôture, et qui pour un homme qui se promène à cheval, oui, comme moi, est important parce que il y a des paysages magnifiques, mais où on se heurte à 36 barrières et où les possibilités de vadrouille à cheval sont limitées.
Le saut en barbelé, c'est pas votre spécialité non plus.
Non, c'est j'ai les pratiqué, mais enfin dans des conditions un peu extrême, c'est-à-dire contre ma volonté quelquefois. Oui. Mon cheval m'a fait ça, un de mes chevaux m'a fait ça une fois pour rejoindre une jument. Le cheval vous permet de voir d'une façon différente la découverte et la redécouverte quasi quotidienne d'un paysage, un rapport au vent, oui, un rapport à l'air qui vous fouette ou non le visage, qui fait que chaque jour et chaque promenade est différente. Et c'est beaucoup lié à ça, à des brumes comme ça, qui se dissipent dans le soleil levant, à la rosée sur des toiles d'araignées qui traversent le petit layon dans lequel vous galopez, quoi.
Quelle est la marque de votre cheval, d'ailleurs?
J'ai monté pendant 30 ans des selles français, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des chevaux assez grands, assez forts, qui sautaient un peu, j'en ai eu qui ont fait des concours hippiques modestes. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, je monte des ibériques. J'ai monté un andalou pendant 10 ans, avec lequel j'avais tourné La fille de D'Artagnan, j'avais eu le coup de foudre, je l'avais ramené à la maison.
Tu crois que je vais te laisser filer avec ce pitre?
Et si je l'épouse?
Héloïse, ma petite Héloïse, voyons, c'est le premier homme que tu rencontres. Il est normal que tu t'entiches de lui, tu sors à peine du couvent.
Au fait, tu t'es bien débarrassé de moi dans ce couvent.
Débarrassé, ne dis pas ça. J'étais toujours par Mons et par Vaux, le cul dans ma selle, l'épée à la main.
Et puis là, depuis le printemps dernier, j'ai un Portugais qui s'appelle Marialva et qui est un cheval adorable. J'ai découvert ces chevaux qui sont plus près de l'homme, je crois qu'ils ont été sélectionnés pour le travail, vous savez, dans les champs, des taureaux, beaucoup, ou pour un peu pour la frime, c'est-à-dire qu'ils ont une belle allure pour le dressage, comme ça. Ce sont des chevaux bien dans leur tête et bien dans leurs membres, c'est-à-dire très équilibrés moralement et physiquement. Donc, pour un cavalier vieillissant comme je suis, c'est une sécurité.
Philippe Noiret, donc mixé avec élégance par Xavier Pessugia. À suivre, toujours le cheval, un cheval débardeur dans les Vosges, et Jean Rochefort.
CO2 Mon Amour, avec Denis Chessou, sur France Inter.
Il y a dans mon jardin secret, des cailloux blancs, des pierres et des galets, un banc pour s'asseoir et le principal, le palais idéal du facteur cheval. Comme un poème monté, pierre sur pierre et galet sur galet, un peu désordre et même un peu bancal, le palais idéal du facteur cheval. Puisque l'homme est fait des rêves qu'il fait, je voudrais bien porter très haut ce fanal, la casquette du facteur cheval. Comme on ajoute aux idées, chacun sa pierre et chacun son galet, j'aimerais laisser ce rêve idéal quand chacun de nous dorme un facteur cheval. Comme un cadeau que l'on fait, le temps d'un rêve ou d'une éternité, une virgule au lieu du point final, un peu de la folie du facteur cheval. Puisque l'homme est fait des rêves qu'il fait, je voudrais vous laisser. Du facteur cheval. Quand je serai fatigué de votre monde et ses réalités, je porterai fier amiral, la casquette idéale du facteur cheval. Puisque l'homme est fait des rêves qu'il fait, je voudrais vous laisser. Oh, un peu d'idéal, la casquette du facteur cheval. La casquette du facteur cheval.
Nous quittons Michel Fugain, Haute-Rive, les collines de la Drôme, pour aller vers le nord, avec un hommage au cheval travailleur. Alors on peut penser à ceux des mines, ceux qui étaient laboureurs, aux chevaliers, aux champs de bataille, aux tireurs de diligence, de carrosses. Et puis, il y avait aussi, il y a les chevaux débardeurs. Et là, j'avais rencontré dans les Vosges Francis Dopf. Alors, faut imaginer le décor, une odeur d'humus forestier, lavé par une pluie récente. Et puis, dans un chemin pentu, nous étions dans la réserve naturelle du Grand Ventron. Un silence de forêt, d'oiseaux et de vent, et on s'approche de l'homme et de sa bête.
Alors, on sent tout de suite, Francis, que votre cheval a quand même un vrai caractère.
Mais de toute façon, dans la forêt, il faut dire une chose, c'est qu'il n'y a que les gens qui ont des sales caractères, ils tiennent le coup.
Vous nous faites des présentations?
Oui, alors c'est Morny. Donc,
Morny. Ah, c'est Morny. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a un syndicat dans votre profession, parce que vous savez combien vous êtes ici en France à pratiquer donc, le débardage, mais à cheval.
On est dans les recensements, on dit une cinquantaine, mais bon, il y a beaucoup de gens qui arrêtent, soit parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, soit parce que les conditions sont très difficiles. Ouais. Le jour où ils se mettent à calculer ce qu'ils gagnent, en général, ils arrêtent. Ou sinon, c'est des gens comme moi qui ne savent pas calculer au bout de 20 ans.
C'est-à-dire, on compte pas les heures, quoi, en gros.
Voilà, bon, ouais. C'est disons qu'il y a, bon, dans tous ces métiers, de toute façon, les métiers de la forêt sont globalement des métiers moins payés que les autres. Hein. Ça, c'est réservé aux fous un peu spéciaux, quoi.
Alors, quels sont les avantages, je dirais, écologiques du débardage à cheval? Parce que là, donc, nous sommes sur un chemin, on pourrait faire passer un bulle, et puis après, on aurait une piste, mais ce serait quand même sacrément défoncé.
Alors, écoutez, je peux être très franc. Ouais. D'une manière générale, disons, c'est pour la sauvegarde des peuplements, c'est-à-dire, il y a des effets, grosso modo, tassement du sol, limitation des dégâts aux arbres en place. Disons, c'est essentiellement pour des raisons sylvicoles. Ouais. Plus les arbres sur pied sont précieux, plus ça se justifie. Le souci, c'est le dégât au peuplement.
Alors, pourquoi il y a une culture du débardage à cheval ici dans ce massif des Vosges, de même qu'il y avait la culture de la schlitte, enfin, c'est-à-dire du transport par luge?
D'abord parce qu'il y avait beaucoup de manœuvres qui n'étaient pas chères, qu'on n'aurait pas toléré, à l'époque où la forêt était une grande rareté, on n'aurait pas toléré le moindre dégât aux arbres. Hein, j'ai encore vu des comptes rendus de procès-verbaux de la fin du 19e siècle, des gens qui avaient des procès parce qu'ils avaient fait ce qu'on fait là maintenant, tirer des bois tout droit dans la forêt, et sur le procès-verbal, il y avait mesuré en centimètres combien il y avait de dégâts sur les arbres et tout. Donc les chemins de schlitage, c'était la seule façon de passer. Oui. Hein, il y en a ici, bon, quelques-uns, si une fois vous avez le temps, c'est spectaculaire, c'est impressionnant aussi. Bon, quand on a été devenu un peu plus exigeant pour les hommes, on a vite arrêté ça, hein, comme on disait, bon, la grande classique, si on disait la schlitte crève à la montée et tue à la descente. Bon, moi, dans mes proches voisins, hein, donc là où était mon grand-père retraité, le village de la Baroche, je compte pas le nombre de gens dont j'ai entendu parler. Quand j'étais gamin, les forêts étaient encore pleines de petites croix en souvenir des accidents de schlitage.
Bon, ça, c'est Morny, oui. Ah oui, là, il fait ses besoins juste avant.
Oui.
Je comprends. C'est bon, peut-être le stress de la vedette avant de...
Oui, voilà, c'est quelque chose comme ça.
Là, vous venez de planter...
Alors là, ça s'appelle un crochet plantant, ou sauterelle, ou blitzocker. Il y a au moins 15 dénominations pour ça. La particularité, c'est que normalement, quand le bois, quand on tire à contresens, ça se décroche. Morny, doucement. Doucement. Ishtrum. Voilà, vous avez vu le principe. Attention, vous êtes dans la trajectoire. Attention, sauvez-vous vite.
Là, il faut expliquer que le tronc est parti tout seul, mais il n'y a pas de dégâts.
Non, mais c'était prévu, mais pas tout à fait là, quoi. Non, Ishtrum. Commence pas à frimer, toi. Hein. Ishtrum, c'est moi qui parle. Hein. Yep, dis. Ishtrum, c'est pas parce qu'il y a du public. Ishtrum. Mais c'est Isht. Bon, tu... Isht. Bon, allez, je vais me fâcher. Isht.
Vous voulez parler, hein?
Oh, c'est un mélange d'Alsacien, de Vosgien. En fait, c'est un verrouillage pour le... On peut pas me le voler, quoi.
Oui. Wow. C'est un code.
Voilà, c'est un code. Oui. C'est quelqu'un qui essaie de me le piquer, il est dans le ravin au premier carrefour.
Et la complicité, comment elle s'opère, je veux dire, entre vous, parce que vous connaissez drôlement bien.
Ah oui, on se connaît. Alors là, bon, c'est une complicité, je sais pas. Là, avec lui, c'est pas le super grand copinage. Hein. Je
suis un petit peu... Relation de boulot, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, on se connaît, C'est peut-être un peu aussi des fois qu'il est trop malin. Hein. Un de mes maîtres disait toujours que le cheval, ça doit pas être trop malin non plus. Parce que, alors des fois, bon, quand il y a une tangente à prendre... Et puis bon, il y a des problèmes. Alors là, on va rentrer dans la psychanalyse. Bon, il a eu une petite enfance assez perturbée.
Ah bah c'est ça.
Donc là, on a un canapé à l'écurie et puis tous les soirs...
Sur la botte de foin, allongez-vous, tranquillement.
Voilà, non mais c'est vrai que chez lui, il y a...
Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, Francis Dope. Vous saluez Morny de ma part. Moi, je ne vais pas le caresser parce qu'on ne se connaît pas.
Et voilà,
pas
et
de
puis
raison.
Alors, comme c'est un monsieur très spécial... Enfin, maintenant, ce n'est pas grave, on termine. Mais comme il a l'habitude, la caresse, c'est le signe que le travail est terminé.
Ah, oui,
alors,
oui.
Si quelqu'un le fait avant la fin, c'est un peu comme un...
Je ne veux pas casser votre...
Voilà. Je suis un peu comme un instit qui doit continuer la classe quand la cloche a sonné.
Merci, Francis.
Voilà,
bientôt.
Mais écoutez, bon retour. Ah, oui. Emporter un peu de Vosges à Paris, là.
Ça y est. Ça passe. Voilà. Ça passe en transistor, c'est sûr.
Voilà.
Francis Dopf, que l'on remercie. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de sites hein, qui sont sur le site de CO2 Mon Amour. Donc, n'hésitez pas. Vous avez donc le sien aussi. Et dans ce casting merveilleux, alors là, retrouvons en 2007 quand même Jean Rochefort dans les Yvelines, à Auffargis. C'était chez lui. 3 minutes 10 de plaisir.
Au nom du roi, il sera remis une récompense de 1000 livres à qui livrera le nommé cartouche.
J'ai toujours aimé les chevaux, et puis il a fallu que je monte pour ce film cartouche avec mon ami Belmondo. Et j'ai eu un coup de foudre amoureux, très violent. Même enfant, je trouvais cet animal presque hors nature, tellement je le trouvais délicieusement sexué et harmonieux. Et après 50 ans de fréquentation quotidienne avec ces animaux-là, quand on les observe longtemps, le mystère n'est toujours pas percé. Quand un cheval est monté par un grand cavalier, le cheval donne à cet homme son cœur et sa confiance absolue. Le cheval a emmagasiné qu'avec cet individu-là, sur son dos, ça se passe toujours bien. À cet homme qui est sur son dos de savoir ne jamais le trahir.
Ah, alors là, on a... Ah ben, vous êtes repéré, là, il y a vos chevaux qui viennent vers
bah
vous.
Oui, vous savez, je les mets tous au monde, hein, moi-même.
Oui,
hein.
Oui.
Je suis leur sage-femme.
Vous ne disent pas papa, mais...
Mais elle le pense. Vous avez là une jument grise de 4 ans, qui s'appelle Providence. Je leur donne des noms de films. Providence, c'est des films d'Alain René.
Vous n'en avez pas de chevaux qui s'appellent Crabe Tambour ou bien Nous irons tous au paradis?
Alors, il y en a un qui s'appelle effectivement Crabe Tambour et un autre qui s'appelle Cartouche.
C'était jeudi et, bravant les questions de Marthe, je sortais mes bottes de cheval du sac où elle séjournait depuis 1958, l'année du retour du général de Gaulle au pouvoir. Je ne partis pas sur les chapeaux de roue afin que ma monture me ménage. Mais très vite, son caractère joyeux égara mes recherches. Et je pris conscience de ce que, si les femmes sont désirables, les chevaux sont roux et les forêts profondes.
Une des grandes joies de ma vie, un de mes grands souvenirs, je pars en forêt de Rambouillet avec une jument qui est morte ici d'ailleurs. Et nous partons, mon chien, dans la forêt de Rambouillet. La pluie tombe et je suis perdu. Je regarde ma carte d'état-major et la pluie l'a détruit. C'est devenu un buvard sur lequel je ne lis plus rien. Donc notre errance est longue. Nous rentrons peut-être après 4 heures d'arrosage, le chien, le cheval et moi, nous sommes trempés et nous sommes retrouvés dans un grand box avec 60 cm de belle paille dorée.
Oui.
Un bien-être énorme s'en est suivi. J'ai décellé mon cheval. Et de concert, le chien, le cheval et l'homme, nous urinâmes ensemble. Et ce fut un des moments, c'est un moment de ma vie où je crois qu'en reboutonnant ma braguette, j'avais les larmes aux yeux.
Nous n'allions pas nous priver quand même de cette mini-rediffusion de Jean Rochefort. Donc merci aux Rossinantes, aux Jolly Jumper, aux Crins Blancs, aux Pégases, aux Stubol qui nous ont écoutés aujourd'hui, à tous ceux que l'on a chantés, filmés, écrits, peints, sculptés, que sais-je. Ah bah tenez, si, quand même une petite anecdote, c'est que l'un des premiers tableaux de Picasso, peint à 8 ans, ça montrait un homme à cheval. Puis un des derniers, à 92 ans, montre un cheval ailé, tenu par un enfant. Oh, je n'ai pas cité, je le sais, les Potiocs, les Mérins, les ancêtres des chevaux de Przewalski que l'on retrouve sur les grottes Chauvet, de Lascaux, dans le Salon Noir, de Niaud, que sais-je. En revanche, je vais citer Élise Christophe qui était aujourd'hui à la technique, Camille Blanès et Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission. Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, alors là aussi ça va être du grand air avec un homme qui s'appelle Alain Laribet, qui est un musicien, qui est un créatif. Nous partirons dans le Béarn, dans sa Vallée d'Aspe, au-dessus de l'Esquin. Ça va être nature, création artistique et brebis. Voilà. Le podcast, vous en avez l'habitude à la fois pour CO2 Mon Amour et La Tulle du Mon Petit Loup, que vous retrouverez aujourd'hui à 17h50. Le Twitter, Denis Chessou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de dimanche.